Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition. Le Burkina est de nouveau en deuil. 47 personnes, dont des FDS, des volontaires pour la défense de la patrie, ont été tuées hier dans le Sahel au cours d'une attaque. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le président du FASO. Notons que 58 terroristes ont aussi perdu la vie dans l'attaque. Et puis, attaque terroriste hier entre Dori et Arbinda. Un habitant justement d'Arbinda nous raconte comment la ville s'est réveillée ce matin. Grogne au sein des commerçants. L'Organisation nationale des commerçants du Burkina dénonce le non-respect de la réglementation du commerce dans le pays. Et puis, attaque terroriste hier, mercredi, dans le Sahel, il y aurait une réticence des populations rurales à renseigner les FDS sur le mouvement des terroristes. C'est ce que pense notre invité du jour. Il s'agit de Mahamoudou Savadougou, gendarme à la retraite et expert en sécurité. Le Burkina a de nouveau été meurtri hier suite à une attaque sur l'axe Dori-Arbinda. 47 personnes, dont 30 civils, 14 FDS et 3 VDP ont en effet perdu la vie dans l'attaque qui a visé un convoi mixte. Le dit convoi était composé de civils, d'éléments des forces de défense et de sécurité, ainsi que de volontaires pour la défense de la patrie. Selon un communiqué du gouvernement qui relate les faits, l'attaque se serait produite à la hauteur de Bokouma, localité située à 25 km de Gorgagui. Les FDS étaient en mission d'escorte pour Arbinda lorsque l'attaque a eu lieu. La riposte menée par les FDS et les VDP a permis d'abattre 58 terroristes. Le bilan fourni par le gouvernement fait aussi cas de 30 blessés côté ami. Suite à l'attaque, le président du FASO, Roch Kabore, a décrété un deuil national de 112 heures à compter de ce jeudi. Comment Arbinda s'est réveillé avec cette nouvelle? Benabé Kabri a joint un habitant de la localité sur la question.
Dites-nous, comment vous avez accueilli la nouvelle de l'attaque d'hier?
Nous, on a pris ça comme ça. Les gens sont sortis, puisqu'ils voient les forces de l'ordre qui partent vers Dori. Maintenant, en temps, on entendait, on disait qu'il y a un convoi qu'on a attaqué sur la voie de Gorgagui-Arbinda. Voici comment nous, on a appris la nouvelle.
Alors, vous confirmez que toutes les victimes sont de Arbinda?
Ça, on ne peut pas le dire. Sinon, la majeure partie, c'est Arbinda.
Et comment est-ce que Arbinda s'est réveillé ce matin?
De façon très bizarre. Les gens étaient cagés chez eux, il n'y avait pas de mouvement, les gens sont mécontents, les activités commerciales ne sont pas ouvertes.
Et actuellement, est-ce que vous voyez des forces de défense et de sécurité signaler dans la zone? Est-ce que vous vous sentez en sécurité actuellement?
Dans la ville, il y en a. Mais est-ce qu'au niveau des alentours, c'est ça, je ne sais pas. Si la voie Arbinda-Gorgagui, est-ce qu'il y en a, je ne sais pas.
Voilà un habitant de Arbinda joint au téléphone par Benabé Kabré. L'Organisation nationale des commerçants du Burkina, Onakombi, a tenu une assemblée générale hier à Ouagadougou pour dénoncer le non-respect de la réglementation du commerce dans le pays. L'Onakombi réclame l'application effective des textes qui régissent l'organisation du commerce au Burkina. Le compte-rendu avec Pierre Badelot.
Les commerçants dénoncent les abus des clauses qui régissent le fonctionnement de la distribution du commerce entre grossistes, demi-grossistes et détaillants. De l'avis des tests, les ressortissants hors CEDEAO devraient s'abstenir de la distribution détaillée. Le constat étant contraire aux règles, l'UNACOMBE passe à la dénonciation de la violation des lois régissant le commerce au Burkina. Mahamadou Sanfo, secrétaire général de l'UNACOMBE.
De la concurrence déloyale exercée sans inquiétude par les ressortissants hors CEDEAO. Et ce, au vu et au su de tout le monde. Et plus particulièrement son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce et ses collaborateurs qui incombent la charge d'application. Le décret numéro 1199, presse MP, MCA, MVA du 31 décembre 2016 relatif au commerce de distribution au Burkina Faso qui précise clairement en son article 9.
Luna Kombe appelle les distributeurs hors CEDEAO au strict respect des lois qui régissent le commerce au Burkina Faso et invite le ministre de tutelle à une application rigoureuse du décret relatif au commerce de distribution. Mahamadou Sanfo.
Le commerce est en train de se dégrader, surtout dans un volet de distribution. Il y a une concurrence déloyale qui est pratiquée au vu et au-dessus de tous. Il y a des décrets qui ont été pris au niveau des autorités. Les lois que je vous ai lues, ça a été pris. Et maintenant, l'application, jusqu'à présent, ne se fait pas sur le terrain. Et la distribution, maintenant, on ne connaît pas qui est distributeur, qui est grossiste. Et voilà pourquoi nous voudrons que les concernés se recadrent. Ils respectent la loi qui a été dite, la loi de notre pays pour le commerce.
Le commerce des distributions entre grossistes, demi-grossistes et détaillants est régi par la loi 012-2013-AN du 7 mai 2013 portant régime général des importateurs et exportateurs au Burkina Faso. La loi 013-2013-AN du 7 mai 2013 portant réglementation de la profession de commerce au Burkina Faso. Le décret numéro 1199-PRESS-MP MCA, MVH, Minefid, MATED, MJDHPC du 31 décembre 2018 qui précise en son article 9 l'interdiction aux distributeurs hors CEDEAO, la vente directe aux consommateurs finaux.
Le ministère de la Santé a lancé hier une étude dénommée Séroprévalence COVID-19 au Burkina. Prévue dans les 13 régions du pays, elle va permettre d'avoir des données fiables pour plus d'efficacité dans la riposte contre la maladie. Abdelaziz Oulabou pour le compte-rendu.
L'évolution de la courbe épidémiologique de la maladie à coronavirus pourrait laisser croire que le pire est derrière. Un tel optimisme a toutefois besoin de données fiables pour se mettre à l'abri de toute surprise. Pour ce faire, le ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ainsi que des chercheurs dans le domaine de la santé, lance une étude sur la prévalence de la maladie sur toute l'étendue du territoire. Charlemagne Ouedraogo, ministre en charge de la Santé.
Cette étude répond à un besoin exprimé par le ministère de la Santé et l'ensemble des acteurs de lutte contre la COVID-19, car comme vous le savez, les tests que nous réalisons au quotidien ne permettent pas d'avoir une idée sur la prévalence de la maladie sur toute l'étendue du territoire. Les chercheurs se sont engagés pour nous proposer une méthodologie qui nous permet de dire à l'instant T qu'est-ce qui se passe dans le pays en matière de COVID, quelle est l'étendue de la question et du problème de façon chiffrée.
Dans les jours à venir, des professionnels de la santé passeront dans les ménages préalablement choisis pour recueillir un certain nombre d'informations entrant dans ce cadre. Charlemagne Ouedraogo, ministre en charge de la santé.
Il y aura une enquête dans les ménages sur les 13 régions. Des ménages ont été sélectionnés et des chercheurs vont passer pour échanger avec les membres de la famille et procéder à un prélèvement sanguin afin que nous puissions avoir des résultats plus tard. Je saisis l'occasion qui m'est offerte ce matin pour annoncer donc cette étude à toute la population, de réserver un accueil chaleureux aux chercheurs qui vont travailler et faire en sorte que nous puissions avoir des résultats, vont guider donc la riposte contre la COVID-19 au Burkina Faso.
Cette étude a une durée de 2 mois et va débuter dans ce mois d'août.
Merci Abdelaziz Azoulabou. Et parlant de COVID-19, le pays a enregistré la date du 17 août dernier. 10 nouveaux cas confirmés, 0 décès, 0 nouvelle guérison. 82 personnes sont actuellement sous traitement. Le monde entier célèbre aujourd'hui 19 août la journée mondiale de la photographie, une journée qui rend hommage à toutes ces personnes qui dans l'ombre permettent de garder des souvenirs, des instants heureux ou non dans la vie. Alice Kagoné a rencontré des professionnels de ce métier suivant son dossier.
Sac à l'épaule, casque bien vissé sur la tête, Hussein Sawadogo, photographe professionnel, est prêt pour immortaliser l'événement d'un potentiel client. D'assistant photographe, il s'est forgé dans ce métier au fil du temps. Il a décidé de créer sa propre entreprise de photographie. La photographie, une passion pour Hussein avec qui il voit les choses en grand. Hussein Sawadogo, promoteur de Vision Associée.
Nous avons mis un code d'honneur sur le travail bien fait. Avec la passion et le travail bien fait, c'est comme ça que nous nous sommes fait connaître.
Lambert Ouedraogo et Marie-Zoé Ringré sont tous photographes journalistes évoluant dans différents médias. Avec respectivement 27 et plus de 10 ans passés dans la photographie, ils ont pu s'imposer dans ce métier. Grâce à leur professionnalisme, ils ont été plus d'une fois lauréats du prestigieux prix dédié aux hommes de médias du Burkina, les Galiens.
Le plus galiant, c'est vraiment du bon qu'on a eu en 2021. Il vient de recevoir encore du deuxième prix et ça me va droit au cœur. Hein. Le photographe, c'est le bras guidé du journaliste. Et on les accompagne dans le travail. Je suis dans ça depuis 1991. C'est avec ça que j'ai nourri ma famille. Avec ça, j'ai soutenu mes frères dans l'ère crise scolaire.
La photographie joue un rôle essentiel dans le journal. C'est comme toute une image parce que ça doit inciter le lecteur, l'amener à lire l'article que la photo, cette photo-là est enrichie.
Même activité de photographe et pas du tout les mêmes gains. Noufo Ouédraogo est dans la photographie depuis plus de 30 ans. Dans son studio situé au secteur 11 de la ville de Wayuguia, il s'accroche encore au métier malgré la révolution de la photographie. Noufo Ouédraogo, photographe.
Je suis un photographe depuis 1984.
Je suis dans la photographie depuis 1984. En son temps, il n'y avait pas de couleur et c'était alors le noir-blanc. C'est à cette époque que l'on parlait réellement du travail du photographe. Maintenant, avec le numérique, tout est devenu facile. Il est venu faire tomber la cote de la pellicule et on n'en parle plus. Maintenant, c'est la carte mémoire qui est à la mode et chacun se dit photographe. Sinon, au moment de la pellicule, tout le monde n'était pas habilité à le faire.
Et avec l'avènement du numérique, que reste-t-il des studios photo?
Même au niveau de passeport, c'est devenu numérique. Permis, c'est numérique. Photo d'identité, ou le pied d'identité, c'est numérique. Pourtant, avant là, tout, on devait prendre des photos à le faire. Mais à l'heure, là, tout ça, c'est fini.
Ce 19 août, hommage est rendu à tous ces chasseurs d'images, eux qui sont présents dans notre quotidien, pour immortaliser chaque instant de nos vies à travers leurs images et leurs flashs.
Omega Sport.
Le tirage au sort de la CAN 2021 a été effectué mardi dernier par la CAF. Le Burkina Faso devra affronter le Cameroun, le Cap-Vert et l'Éthiopie au premier tour. Un groupe ouvert dans lequel chaque équipe aura son mot à dire. Suivons ces analyses de quelques journalistes sportifs dans ce reportage signé Benabé Cabré.
C'est un groupe de retrouvailles que le Burkina Faso a hérité pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le Cameroun, le Cap-Vert et l'Éthiopie ont dans le passé été des adversaires du Burkina en phase finale de CAN ou en éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais ces équipes présentent de nouvelles ossatures, selon Madi Zongo, journaliste à BF1.
Ce sont de vieilles connaissances, même s'il faut reconnaître que les équipes ont beaucoup changé. Ce n'est plus le même Burkina, le même Cameroun ou la même Éthiopie, encore moins le Cap-Vert. Mais je pense qu'en la matière, c'est la réalité du terrain qui vous situe le mieux.
Une nouvelle ossature, c'est ce que le Burkina va présenter au Cameroun. Des cadres ont raccroché ou ne sont plus appelés en équipe nationale. Et cela pourrait être un handicap, de l'avis de notre confrère de la RTB, Mahamadi Wena.
Des inquiétudes au niveau du fait qu'on aura un groupe très rajeuni à cette compétition parce qu'il y a beaucoup de cadres qui ont abandonné. En 2017, le Burkina a surfé sur l'expérience du groupe. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci, mais je crois qu'on a quand même des joueurs qui montent en puissance. Et si beaucoup de jeunes gardent la forme qu'ils ont en ces débuts de championnat en Europe, le Burkina peut dire quelque chose à cette compétition.
Ce groupe n'est pas trop cruel et reste ouvert. Seul bémol pour Bukari Ouédraogo de Burkina 24, affronter le pays organisateur, le Cameroun, dès le premier match.
Le danger se trouve que le Burkina joue le match d'ouverture contre le pays hôte. Et généralement, dans ce genre de situation, il faut tout faire donc pour s'imposer lorsqu'on est organisateur. C'est peut-être là donc la difficulté pour le Burkina Faso. Pour les autres adversaires, il faut les respecter parce qu'ils ont réalisé de bons parcours. C'est les adversaires à respecter.
Les étalons joueront crânement leur chance. L'espoir de voir l'équipe aller loin est permis, nous rappelle Madi Zongo.
La beauté de l'histoire, c'est que chaque fois qu'on a été dans la même poule que le Cameroun, on a atteint les demi-finales en 98 comme en 2017. Donc ça peut être sur le plan un peu psychologique ou émotionnel. C'est un bon tirage pour le Burkina.
Le Burkina Faso jouera son premier match le 9 janvier contre le Cameroun, le 13 face au Cap-Vert et le 17 contre l'Éthiopie.
Écoutons à présent la réaction du sélectionneur national Kamou Malo sur ce tirage.
C'est un groupe a priori très difficile dans la mesure où nous jouons le match d'ouverture face au pays organisateur. Ça, c'est déjà une difficulté majeure parce que ce n'est pas toujours facile. Hormis cela, je pense que dans la poule, quand même, il y a un nivellement des valeurs que je constate. Alors, quand on prend, bien sûr, en dehors de Cameroun, le Burkina, le Cap-Vert et puis l'Éthiopie, il y a vraiment un nivellement des valeurs. Donc, je pense que c'est un groupe ouvert où chacun aura sa chance, chacun devra en tout cas se battre, en tout cas pour prendre un ticket qualificatif. Le Burkina n'a pas tiré non plus la mer à boire. Nous sommes des compétiteurs, nous devons nous adapter. On pouvait hériter pire que ça. Alors donc pour moi, je pense que c'est un groupe équilibré.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Attaque terroriste hier mercredi dans le Sahel. On en parle avec Mahamoudou Savadogo, gendarme à la retraite et expert en sécurité. Selon lui, il y aurait une réticence des populations rurales à renseigner les FDS sur les mouvements des terroristes dans cette guerre asymétrique. Mahamoudou Savadogo répond aux questions de Brigitte Yoda.
Mahamoudou Savadogo, bonjour.
Bonjour.
47 morts dans une attaque terroriste hier dans le Sahel. Quelle est votre première réaction à chaud?
À chaud, je dirais que c'est une nouvelle attaque qui a meurtrié les forces de défense et de sécurité et toute la population burkinabé. Et j'aimerais d'abord présenter mes condoléances à l'armée et à tous ceux qui ont subi ce drame.
Y a-t-il un lien de causalité entre les terroristes condamnés récemment par la chambre correctionnelle spécialisée du pôle judiciaire et ces attaques qui viennent de se produire dans le Sahel?
Nous n'avons pas assez d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de faire un lien de causalité entre les terroristes condamnés et ces attaques. Mais nous voyons encore que nous sommes limités quant à la question logistique et aussi quant aux questions d'organisation et de connaissance et de maîtrise du terrain et surtout quant aux questions de renseignement qui fait que ces groupes armés terroristes sont très en avance sur les forces de défense et de sécurité en matière de renseignement, ce qui fait qu'ils arrivent à déterminer à l'avance les itinéraires et à monter des embuscades pour les attaquer.
Mais comment se fait-il que des groupes terroristes soient mieux informés sur les déplacements de nos FDS comparativement à notre armée nationale?
Cela s'explique par tout simplement la stratégie adoptée par ces groupes armés terroristes qui est de se faire accepter de gré ou de force par les populations et d'obtenir par la force ou par la persuasion la collaboration de ces populations qui sont laissées à elles-mêmes. On le dit dans une lutte asymétrique, la pièce maîtresse, c'est la population et la population doit être au cœur de la stratégie pour pouvoir atteindre nos objectifs. Sinon, ça va être avec difficulté que nous allons nous en sortir dans cette guerre.
Selon le communiqué du gouvernement, 58 terroristes ont été neutralisés. Mais ce n'est pas aussi une victoire des FDS sur les groupes terroristes?
On observe effectivement qu'il y a des efforts qui sont faits. On a eu des leaders qui ont été tués dans la boucle de Mouhoun. On a des bases démantelées. On a des opérations qui sont en cours. Effectivement, il y a comme une nouvelle dynamique. Mais nous voyons aussi d'un autre côté que cette nouvelle dynamique aussi est un peu refroidie par une réponse, je dirais, musclée de ces groupes armés terroristes et une adaptation presque spectaculaire de ces groupes armés terroristes quant à l'offensive menée par les forces de défense et de sécurité. Ce qui veut dire que les moyens mis à la disposition de ces forces de défense et de sécurité n'est toujours pas suffisant et probablement n'est pas adapté à la situation et qu'il va falloir continuer à armer nos forces de défense et de sécurité et adjoindre à la lutte militaire et d'autres luttes. On a la question de renseignement, on a la question de la participation volontaire effectivement dans cette lutte des populations pour renseigner les forces de défense et de sécurité qui n'est toujours pas effectif parce que dans une lutte asymétrique, l'avantage revient à celui qui a l'information, à celui qui a le renseignement. Malheureusement, jusqu'à présent, on a toujours un fossé qui sépare ces populations rurales et les forces de défense et de sécurité, ce qui fait que les forces de défense et de sécurité manquent effectivement d'informations, de renseignements pour pouvoir anticiper sur le mouvement des groupes armés terroristes et aussi anticiper sur les attaques menées par ces groupes armés terroristes sur eux.
Mais que faut-il faire pour rassurer ces populations-là afin qu'elles collaborent avec les FDS?
Il faut qu'elles se sentent protégées, c'est tout simple que ça.
Dit ainsi, ça a l'air d'être simple, mais quel est le processus pour y arriver?
Le processus va être très long parce que nous avons laissé le doute s'installer, nous avons laissé les choses se désagréger. Et pour se lancer, il va falloir dans un premier temps reconquérir le cœur des populations. Et pour reconquérir le cœur de ces populations, il va falloir s'évertuer à en faire un objectif et les libérer de l'emprise de ces groupes armés terroristes parce qu'on a beaucoup de populations qui sont sous leur emprise.
Alors, il n'y a pas eu que des attaques terroristes au Burkina Faso. Au moins 37 civils, dont une dizaine de femmes et d'enfants, ont été tués lundi dans l'ouest du Niger. Une cinquantaine de civils ont également été tués dimanche dans le nord du Mali. Qu'est-ce qui expliquerait ces attaques selon vous?
Cette violence généralisée dans le fuseau central du G5 Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina, pourrait avoir plusieurs explications. L'une des premières explications qu'on pourrait donner à cette violence généralisée, c'est la montée en puissance de ces groupes armés terroristes, le gain en technicité et en logistique qui leur permettrait aujourd'hui de s'en prendre des cibles dures et de mener des attaques complexes. L'autre plausibilité et l'autre hypothèse qui pourrait être avancée quant à la généralisation de la violence, c'est le fait que ces groupes armés ont conquis des zones de confort, des zones dans lesquelles ils peuvent tranquillement porter atteinte à l'intégrité physique des populations sans une intervention des forces de défense et de sécurité. La troisième explication qu'on pourrait donner pourrait être le combat même qu'il y a entre ces groupes armés terroristes au Sahel, qui fait que chaque groupe, par représailles à l'autre groupe, s'en prend aux populations qui ont collaboré avec l'un ou l'autre groupe. Et donc, dans cette guerre, finalement, c'est les populations qui payent les pots cassés parce qu'ils sont entre l'enclume et le marteau.
C'était l'invité de la rédaction.
Vous l'aurez compris, c'est ici que prend fin cette édition. À l'instant, Mahamoudou Savadogo espère en sécurité. Adama Konaté assuré la mise en onde, Denis Ongrana au micro, Mohamed Nakanabo la retransmission web. Merci d'être resté fidèle à Omega Média.
Radio Omega, l'info en direct.